Alors, nous allons commencer par un échange avec sur Framasoft avec donc Pierre-Yves Gosset, le directeur de l'association. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Frédéric.
Alors, émission un petit peu exceptionnelle parce que, comme je l'ai dit, tu as un train à prendre pour donner une conférence ce soir à Lyon. Ouais. Donc, on commence par le sujet long. L'idée, c'est un petit peu de mieux faire connaître l'association. Alors, à la fois ses projets, mais les gens les connaissent plutôt pas mal, ou en tout cas, on connaît un certain nombre. Mais aussi un petit peu de revenir sur ce qu'est Framasoft, l'historique, le mode de fonctionnement et puis les projets. Alors d'abord, première petite question, à titre déjà personnel, est-ce que tu peux te faire une petite présentation sur ton parcours?
Ouais, donc voilà, je m'appelle Pierre-Yves Gosset, j'ai 42 ans, ça doit faire maintenant... Oui, tout ça, 42. Et ça doit faire à peu près 15 ans que je suis dans Framasoft. Et ça fait 11 ans que je suis salarié de l'association. Donc moi, je suis venu au logiciel libre pendant que j'étais objecteur de conscience, hein, d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, vu que c'était le temps où on faisait le service militaire. Et quand j'ai découvert le logiciel libre, je me suis assez vite intéressé à ce que c'était, aux valeurs que ça portait. Et voilà, dans mon parcours, je me suis assez vite rapproché de la communauté Framasoft. J'en ai été... j'étais secrétaire de l'association pendant quelques temps, et puis le premier salarié et maintenant directeur, vu que nous sommes 9 salariés dans l'association.
D'accord. Alors, imaginons que tu sois une soirée ou ailleurs, comment tu présenterais Framasoft en une ou deux phrases, avant qu'on rentre dans le détail?
Je peux te la faire en une phrase.
En une phrase.
Framasoft est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique. Tu noteras qu'il n'y a pas forcément le mot libre dedans.
J'ai bien noté qu'il n'y a pas forcément le mot libre dedans, mais peut-être que la partie libre est un prérequis nécessaire et évident, mais on y reviendra. Alors, Framasoft, on va parler un petit peu de la naissance de Framasoft, parce qu'aujourd'hui, ouais, beaucoup de gens connaissent quand même Framasoft, mais peut-être ne se souviennent-ils pas d'où ça vient. Donc, à quel moment a été créé Framasoft et que veut dire Framasoft? Parce que hier à table avec d'autres libris, j'ai posé la question et en fait, personne ne connaissait la réponse, à part moi ou peut-être une autre personne. Donc, est-ce que tu peux nous dire quand a été créé Framasoft, par qui et que signifie Framasoft?
Bien sûr. Donc, Framasoft est un projet qui est né en 2001. Ça vient au départ d'un projet qui s'appelait Framanet, qui signifiait français et mathématiques sur intranet. Ça avait été créé par deux enseignants, Caroline Datacabion, qui a depuis créé le site Weblettres, qui sert notamment aux enseignants de français, et Alexis Kaufmann, qui était donc le fondateur de Framasoft, et qui avait créé, au sein de ce site Framanet, une page autour des logiciels pour l'enseignement. Donc on est vraiment une association qui est issue du milieu de l'enseignement. Et voilà, ensuite, en 2004, s'est montée une association.
Donc la création, c'est quelle année?
Le projet est né en 2001, l'association a été créée en 2004.
D'abord, un projet informel avec un site web, et ensuite
l'association
en 2004.
Exactement, un projet au départ purement pratico-pratique, complètement dans le fer, monté par deux enseignants. Et ensuite, une association créée par trois enseignants, Alexis Kaufmann, Georges Da Silva et Paul Lunetta. Et moi, d'accord, je suis arrivé en 2005.
Toi, tu es arrivé en 2005. Donc, 2001, ça fait maintenant 18 ans.
18
donc,
ans.
Une longue période.
Ouais, ouais. Ça remonte à loin.
Alors, historiquement, quels ont été les projets de Framasoft, les premiers projets de Framasoft?
Le premier projet de Framasoft est celui qu'on continue à maintenir, même s'il est moins visible aujourd'hui, c'est l'annuaire de logiciels libres. C'est-à-dire que la page Framasoft qui listait des logiciels au sein de ce site qui s'appelait Framanet est devenue assez vite relativement importante en nombre de logiciels. Il faut savoir que jusqu'en 2004-2005, ça n'était pas que des logiciels libres, c'était vraiment des logiciels à la fois libres, mais aussi des logiciels gratuits qui pouvaient aider les enseignants à mieux pratiquer leur démarche d'enseignement. Et il y a eu une rupture assez forte, au bout d'un moment, une prise de conscience partagée par Alexis Kaufmann et par d'autres, de dire ce qui compte dans tous ces logiciels, c'est finalement qu'on puisse les réutiliser, les partager, les copier, sans être limité par des problématiques de droit, de prix, ce qui était relativement important dans le milieu enseignant, puisque c'est pas toujours facile de pouvoir acheter des logiciels. Donc, l'idée du partage à la fois du savoir et des logiciels s'est rencontrée à ce moment-là et l'annuaire est devenu un annuaire exclusivement basé sur du logiciel libre et faisant la promotion exclusivement de logiciels libres.
Et il y avait combien de logiciels qui étaient référencés à cette époque?
Alors, au tout début, c'est monté petit à petit. Donc, en 2004, il devait y en avoir un petit peu plus de 200, je crois. Le plus haut qu'on ait eu sur l'ancienne version du site, qui était un site sous SPIP, je crois que c'était 1200 logiciels libres. Et on a rebooté cet annuaire il y a maintenant...
Rebooté? Oui, c'est quoi cette expression?
Ben, tout simplement, l'annuaire était très vieillissant, on n'avait plus de bénévoles pour s'en occuper, et ça devenait compliqué de se dire qu'est-ce qu'on fait de toutes ces vieilles notices logicielles dont les logiciels n'existent plus, dont on ne trouve plus le code source, etc. Et donc, il a fallu remettre à zéro cet annuaire. Et on l'a donc refait et réannoncé, si je ne dis pas de bêtises, en 2016. Et voilà. Et aujourd'hui, je ne suis même pas allé sur Framalibre ces derniers jours, mais on doit tourner aux alentours de plusieurs centaines de fiches logicielles. On doit être à 600, 800, quelque chose comme ça.
D'accord. Alors, je précise qu'on va citer sans doute beaucoup de noms de sites web au cours de l'émission. Mais le plus simple, c'est d'aller sur le site portail, Framasoft. On va dire, framasoft.org. Et là, vous retrouverez tous les liens. Donc ça, c'était l'annuaire. Il y avait un autre projet qui était important, c'était les Framakeys. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'était que ces projets-là et est-ce que ça existe toujours?
Alors, le projet Framaki est né en 2005. L'histoire est assez simple. J'avais traduit un projet qui s'appelait The Open CD, dont tu te souviens peut-être, qui était un CD, une compilation de logiciels libres sur CD et DVD. Et j'avais trouvé qu'il était assez facile de pouvoir mettre ces logiciels sur clé USB et de les faire tourner sur clé USB. Et donc, le projet Framaki est né avec un autre bénévole. On a porté ce projet pendant quelques années à ce moment-là, donc à partir de 2005-2006. Et l'idée, c'était de créer une clé USB sur laquelle on pouvait emporter et embarquer ces logiciels. Et ce qui permettait d'ailleurs souvent des utilisations un petit peu sauvages et positif de logiciels libres dans des environnements qui étaient verrouillés par les administrateurs système et qui empêchaient l'exécution, par exemple, de Firefox. Ben là, on avait un Firefox portable sur la clé USB, on branchait la clé USB, on lance Firefox portable et ça fonctionne directement depuis la clé USB. Ce projet existe toujours, il est clairement moribond aujourd'hui, puisque il est resté maintenu par des bénévoles de Framasoft, notamment un bénévole, Arnaud, que je salue, et qui n'ont juste plus le temps de s'en occuper. Et ce qui est intéressant, c'est que, on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a eu d'autres associations, donc notamment les CMEA, une association, un gros réseau d'éducation populaire, qui potentiellement est intéressée par le projet Framaki et qui pourrait en voir d'autres usages que nous, on n'avait pas détecté au départ, pour d'autres publics que le très grand public qu'on visait à l'époque. Et donc pour des publics très ciblés, peuvent avoir besoin de ce projet-là et on aimerait bien nous transmettre ce type de projet pour ne plus tout simplement avoir à les porter. 2005, ça fait 14 ans. Peut-être temps pour nous de passer à autre chose.
Tout à fait. Alors, il faut préciser que ces Framaki permettaient de faire tourner des logiciels libres à la fois sur environnement Windows et des Framaki aussi sur environnement libre, comme par exemple une Debian. Et nous-mêmes, d'ailleurs, entre April et Framasoft, on avait travaillé ensemble sur une Framaki en l'occurrence, ou une Framaclé, en coopération avec le Crédit Coopératif dans le cadre du guide Libre Association, donc avec des logiciels qui étaient diffusés auprès d'associations avec un guide papier et des clés à la fois Windows et Debian, donc en ce qu'on appelle en double amorçage, une double possibilité. Peut-être qu'aussi les besoins aujourd'hui ont changé, donc peut-être qu'effectivement, comme tu dis, que c'est intéressant que d'autres structures s'approprient ces sujets-là et les adaptent à leurs besoins de leur public. Alors, donc l'annuaire et les clés, c'était les deux principaux projets de Framasoft à cette époque-là.
Oui, en 2005, c'était les deux principaux projets. En 2006, sont arrivés deux autres projets d'importance qui sont toujours bien présents aujourd'hui et très actifs aujourd'hui, à savoir le Framablog, donc créé par Alexis Kaufmann à l'époque, Framablog qui visait et qui vise encore aujourd'hui à faire des ponts entre le milieu du logiciel libre et les milieux des cultures libres, d'expliquer un petit peu finalement les choses qui peuvent se passer de par le monde autour du monde du libre et les expliquer en les retraduisant parfois de façon littérale, c'est-à-dire qu'on a un groupe de traduction qui s'appelle Framalang, qui est composé de 80 à 100 personnes qui traduisent très régulièrement des articles essentiellement de l'anglais vers le français, mais c'est aussi de l'espagnol vers le français. Et donc ça permet de diffuser plus facilement de l'information au grand public en disant, bah voilà, là on a trouvé cet article intéressant, on vous le propose à débat. Ça nous sert aussi, pour nous, Framasoft, d'organe de promotion, de diffusion, d'information sur ce que l'on fait, donc à la fois quelque chose de outil de communication interne. Et donc aujourd'hui, le Framablog, je crois qu'on a dépassé les 1600 articles publiés depuis 2006. Donc il y a un rythme de publication relativement important. Et l'autre projet qui est né dans ces années-là, c'est le projet Framabook, qui est donc une maison d'édition libre, micro-maison d'édition, hein, mais maison d'édition quand même, puisque aujourd'hui, je crois qu'on atteint les 48 ouvrages. On devrait atteindre les 50 d'ici la fin de l'année. La particularité de Framabook, c'est que tout le monde nous disait « Non, mais votre truc, là, le logiciel libre, c'est bien gentil, mais en fait, on peut pas... ça marche parce que c'est du numérique et qu'on peut le copier et le coller, mais si on le fait avec des objets physiques, ça marche pas trop. » Et donc, on était dans l'époque où on faisait un petit peu la promotion de la Framaki, et on s'est dit « Vous voyez bien qu'on peut faire de l'objet physique et libre à la fois. » Et l'aspect culture libre nous paraissait intéressant. Et Georges Silva, qui est donc un des fondateurs de Framasoft, avait à cette époque un ouvrage qui devait être publié sur Thunderbird dans une grande maison d'édition.
Rappelle-nous ce qu'est Thunderbird.
Thunderbird, c'est un client mail, c'est-à-dire un logiciel qui permet de lire vos mails, d'y répondre, etc. Et donc, il avait écrit, je crois que c'était Thunderbird 1.5, et il s'est retrouvé en fait avec ce manuscrit sur les bras. Du coup, avec Alexis Kaufmann, ils ont décidé de monter cette maison d'édition, Framabook, sur la base de ce premier ouvrage qui a été repris ensuite par d'autres. Et aujourd'hui, on atteint voilà une cinquantaine d'ouvrages qui vont du roman, puisqu'on a pas mal d'auteurs dans l'association. Donc on a des membres qui vraiment écrivent des livres.
J'ai même lu récemment un roman policier.
Tout à fait, on a des romans policiers.
C'est Frédéric
Urbain.
Frédéric Urbain, roman voilà. Policier qui est un peu à la mode à l'ancienne, on va dire, avec des personnages très truculents, de l'argot, etc.
Tout à fait,
très bien.
Ça lui fera plaisir que tu...
Je lui ai dit en direct.
Voilà. Il y a aussi, toujours dans les romans, il y a Traces de Stéphane Croza, qu'on a publié il y a pas longtemps, je trouvais vraiment le bouquin excellent. Il y a toujours dans les romans, mais cette fois-ci, troisième quart du XIIe siècle, hein, donc romans médiévaux, une republication des ouvrages de Yann Carvent, qui, du coup, avait publié ces livres-là que vous pouviez trouver dans toutes les bonnes librairies et toutes les bonnes bibliothèques. Voilà, plusieurs années après, il a souhaité reprendre ses ouvrages et les republier. Il a choisi de les publier chez Framabook. Donc voilà, il y a Pouillou aussi, qui est aujourd'hui salarié de Framasoft, mais qui avait publié ses ouvrages. Et après, on a des bouquins qui tournent aussi autour du logiciel libre, évidemment. Voilà, sur à la fois qui peuvent être des essais, qui peuvent être des livres très pratico-pratiques sur, je ne sais pas, Drupal ou autre. Et on a enfin des ouvrages encore un petit peu entre deux mondes. Par exemple, un ouvrage qui s'appelle Thermodynamique de l'ingénieur, voilà, qui sert aux étudiants qui font ingénieurs, qui étudient la thermodynamique et qui est un bouquin qui marche plutôt bien. Voilà, donc on se retrouve avec plein de choses très différentes, des bandes dessinées aussi d'ailleurs.
Alors, je peux juste préciser que Drupal, c'est
un système de gestion de contenu.
Un système de gestion de contenu, donc notamment pour faire des sites web qui propulsent des sites très puissants et des sites un peu moins puissants, comme celui de l'April, par exemple. Il y a aussi que tu parlais de livres. Les personnes qui ont écouté l'émission il y a quelques semaines sur les licences libres dans le Framabook, il y a Options libres, les licences libres expliquées, donc un livre de Benjamin Jean. Donc voilà. Donc c'est très intéressant. Et le guide Libre Association dont je parlais à l'instant est également disponible en version Framabook. Alors ça, c'est des projets donc qui existent depuis très longtemps. Tu as très souvent employé le mot bénévole. Si je me souviens bien ce que tu as dit dans ton explication au départ, toi, tu es devenu le premier salarié en 2008. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous êtes passé à un mode avec des bénévoles et des salariés ?
Alors, il y a l'histoire officielle, il y a l'histoire officieuse.
Alors, tu es en direct, je te dis juste, tu racontes ce que tu veux.
Non, tout simplement, on devenait... Le projet Framasoft marchait bien, on butait juste sur... Framasoft, j'ai pas précisé, mais c'est une association de 35 adhérents et adhérentes. Donc, on est volontairement une toute petite association. Il y a assez peu de bénévoles, finalement, dans l'association. Donc, entre 25 et 30. On est resté quasiment effectif constant en nombre d'adhérents et d'adhérentes. On a pas souhaité nécessairement aller beaucoup plus loin. Et l'idée, c'était de dire, bon, on va essayer de faire le maximum avec une toute petite taille, ce qui nous permet d'être relativement agile et de changer de notre fusil d'épaule assez régulièrement, ce qui est plutôt efficace pour nous. Et donc, voilà, en 2008, il s'était passé deux choses. La première chose, c'est qu'on avait un petit peu de sous sur le compte, parce que figure-toi qu'on avait de la publicité Google, AdSense sur le site framasoft.net à l'époque. Publicité Google qui rapportait un peu de sous, qui était du coup sur le compte en banque de Framasoft, qui ne servait pas nécessairement à grand-chose. Et on s'était dit, bon, autant dépenser cet argent en essayant d'aller plus loin dans notre démarche de promotion et de sensibilisation au libre. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'étais salarié au CNRS à l'époque. Je travaillais sur un projet autour du logiciel libre, le projet Plume. Et à la fin de mon contrat, on m'avait proposé tout simplement de m'embaucher parce qu'ils avaient besoin de poursuivre ce projet. Ils ne pouvaient pas me renouveler mon contrat.
Le CNRS.
Le CNRS, voilà, ouais. Tout à fait. Le CNRS souhaitait me reconduire mon contrat, mais ils ne pouvaient pas le faire sous forme de CDD. Moi, je ne voulais pas rentrer dans la fonction publique. Enfin, j'avais passé déjà près de 10 ans à travailler pour des universités. Ça ne me tentait pas plus que ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'ils m'ont dit, bah, voilà, tu peux te mettre en auto-entrepreneur ou on pourrait payer une structure pour que tu continues à travailler pour nous. Et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je leur ai proposé à l'association, effectivement, de travailler au sein de Framasoft sur le projet Plume. Et ça a permis aussi de débloquer des fonds qui ont permis, finalement, la première création de poste à Framasoft. Donc, voilà, c'est à la fois grâce au CNRS et... J'ai pas honte de le dire, mais je trouve ça très rigolo avec le recul, en partie grâce à l'argent de la publicité gagnée via les publicités Google.
Alors, ça, c'était au début, et on va revenir après sur le mode de financement actuel de Framasoft. Mais depuis, vous êtes donc dégooglisé en termes d'organisation. Et on reviendra tout à l'heure après sur le projet Dégooglisons Internet. Donc ça, c'est 2008. Aujourd'hui, juste pour un chiffre, vous êtes combien de salariés à Framasoft?
Alors, on est 9 salariés, on est 35 adhérents au total. Ce qui fait, nous, en termes de salariés, une des plus grosses associations du libre, non seulement francophone, mais je pense européenne.
Tout à fait. Donc ça, c'est la naissance. Donc là, on l'a vu assez rapidement, bon, la naissance de Framasoft, avec la partie mathématique, le passage, les premiers projets, que certains existent toujours, et certains, évidemment, très importants, comme l'annuaire du libre à l'époque, qui était la référence sur laquelle on renvoyait les gens. On vient de voir juste le démarrage, donc la partie salariée, on reviendra tout à l'heure parce que Framasoft depuis a bien progressé, a de plus en plus de projets, donc une équipe de 9 personnes et on verra un petit peu en détail à quoi servent ces 9 personnes. Mais il y a aussi un autre virage. Alors tu as donné un premier virage tout à l'heure, c'est l'extension à la culture du libre. Ce qui a été un marqueur de Framasoft, c'est au-delà du logiciel libre, la culture du libre. Un deuxième virage, c'est celle de l'éducation populaire. Alors ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment était ce virage et pour quelle raison?
On a toujours fait de l'éducation populaire. Alors, définir l'éducation populaire ou l'éducation non formelle, c'est toujours un exercice un petit peu difficile. Si je devais résumer ça, pareil, en une phrase, je dirais que c'est l'éducation de tous, par tous, dans l'idée de s'émanciper et de pouvoir être autonome. Alors, être autonome, c'est très, très vaste, mais c'est aussi être autonome, du coup, pour nous, là, spécifiquement sur des questions numériques. Et donc, Framasoft a toujours été une association d'éducation populaire. Par contre, en 2013, on a fait cette démarche de demander un agrément Jeunesse Éducation Populaire. On a surtout beaucoup rencontré d'autres structures autour de nous qui faisaient de l'éducation populaire sur le terrain. Il y avait à la fois une part de nécessité, une part d'envie et une part de mise en perspective. La nécessité, c'était qu'on se rendait bien compte que le logiciel libre, ça marchait bien dans nos petits milieux libristes. Voilà, dans notre petite tour d'ivoire, ça marche plutôt bien. Par contre, quand il fallait aller rencontrer les gens, c'était un petit peu plus compliqué. Là-dessus, faut saluer le travail notamment qui a été fait par Ubuntu pour démocratiser un petit peu GNU Linux en tant que système d'exploitation qu'on va pouvoir utiliser sur son ordinateur. Mais on voyait bien qu'on butait de toute façon en termes d'usage sur quelques pourcents. Et on s'est dit, mais en fait, on doit pouvoir j'allais dire utilisé, alors c'était dans le, ça peut être mal compris, mais c'était pour moi positif, s'appuyer sur des réseaux préexistants, que ça soit, tout à l'heure je parlais des CMEA, qui est un réseau d'éducation populaire qui a 80 ans, il me semble, ça peut être la Ligue de l'enseignement qui est encore plus ancienne, ça va être des associations de quartier type MJC, etc. Pour, c'est exactement ce que vous faites là en faisant cette émission aujourd'hui. Donc c'était quelque chose qui était déjà pratiqué, mais on a souhaité l'affirmer, le développer et rendre ces liens plus tangibles en travaillant finalement avec ces associations d'éducation populaire, ces réseaux d'éducation populaire qui sont présents sur le territoire, qui eux ont les contacts sur le terrain, qui ont l'habitude, qui connaissent leur population, c'est-à-dire que ce sont souvent des gens qui sont assez éloignés du numérique. Et du coup, on s'est pris quelques claques dans la face et c'était très très bien de se prendre quelques claques, on va dire, d'un point de vue voilà, où nous on était très au point sur les questions techniques, et puis bah tu te retrouves dans une MJC à expliquer à quelqu'un comment fonctionne la souris, et ben tu te rends compte de la réalité. Et du coup on s'est dit il faut qu'on réajuste non seulement nos pratiques mais aussi nos discours, et c'est ce qu'on a commencé à faire voilà depuis 2013-2014.
Donc avec un axe éducation populaire
qu'on a développé.
Et donc vous avez eu l'agrément aussi.
Tout à fait, oui, oui, bien sûr. Depuis 2013, voilà, Framasoft est une association d'éducation populaire, on peut le dire, puisqu'on a l'agrément, ce qui n'empêcherait pas, à mon sens, de pouvoir le dire. C'est pas l'agrément qui définit si vous êtes une asso d'éduc-pop ou pas.
D'accord. Alors on va faire une petite pause musicale et puis après on va parler des projets un peu plus récents que les gens connaissent sans doute mieux. On va écouter Leaf par KV et on se retrouve juste après.
Cause commune.
Venons d'écouter Leaf par KV, musique disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Donc l'œuvre peut être librement utilisée à la condition simplement de l'attribuer à l'auteur en citant son nom, ce que je fais. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Avant de poursuivre, je vais vous reposer les deux questions du quiz. La semaine dernière, dans l'émission du 28 mai, nous avons parlé d'une distribution éducative libre. Comment s'appelle-t-elle ? Deuxième question, que se passe-t-il en fin de semaine, ce week-end, à Celles-sur-Cher et qui est en lien avec le logiciel libre ? Alors, nous allons poursuivre, après ces deux petites questions dont je donnerai la réponse tout à l'heure, la discussion, donc, toujours avec Pierre-Yves Gosset de Framasoft, directeur de Framasoft. L'invité suivant nous a rejoint, Étienne André, et ce qui était marrant, c'est que ça rappelait beaucoup de souvenirs à Étienne André, parce qu'on est à peu près de la même génération ici. Donc là, on a parlé un petit peu de l'ancien Framasoft, entre guillemets, en tout cas les premières années, les belles années, et puis les belles années se poursuivent avec des projets importants. Tout à l'heure, on parlait de Google, de la pub sur le premier site Framanet. Framasoft a lancé il y a quelques années un projet, une ambition incroyable, dégooglisons Internet. Alors c'était quand? Quel était l'objectif et où on en est de ce projet un peu mégalo, non?
Voilà, c'était notre modeste plan de libération du monde. Tout simplement, en fait, il s'est passé un événement important en 2013, c'est les révélations d'Edward Snowden, qu'on n'a pas forcément pris en pleine face parce qu'on savait déjà qu'il y avait des collusions importantes entre les services de renseignement états-uniens et un certain nombre d'entreprises du numérique américaines. Et c'est juste que voilà, là c'était flagrant, c'était sur la place publique, c'était débattu, ça a quand même été le feuilleton de cet été 2013. Et nous on s'est regardé dans l'association et on s'est dit bon alors attends là, nos mails étaient gérés chez Gmail, les mails de l'association étaient gérés chez Gmail, on utilisait Google Groups pour discuter entre nous, on avait de la pub AdSense qu'on avait dû virer je pense en 2012 ou effectivement début 2013, donc voilà, on était en gros dépendant, on était devenu dépendant de Google.
Et beaucoup de personnes vous le faisaient remarquer en plus.
Tout à fait, mais après par rapport au public que nous on visait, c'était pas ces personnes-là qui nous le faisaient remarquer,
non.
C'était évidemment les amis de l'intérieur, il me disait c'est mal, mais bon voilà, on est une association donc qui vient du milieu de l'enseignement, comme je disais moi j'ai travaillé pendant très longtemps pour des universités, les trois fondateurs de Framasoft sont des enseignants. À un moment donné, on n'était pas des informaticiens et des informaticiennes, donc on avait cette problématique de se dire si on veut être autonome sur ces outils-là, ça va nous prendre pas mal de temps. Et on avait repoussé jusqu'à cet été 2013. On avait à ce moment-là la chance d'avoir quelqu'un dans l'association, Luc Didry, qui est toujours, qui est maintenant notre administrateur système salarié, mais qui à l'époque était bénévole.
Donc
dans,
la personne qui est en charge de la maintenance
tout à
de
fait.
Votre système d'information, donc
tout
de
à
vos
fait.
Services.
Exactement. Et qui a dit, ok, moi c'est mon boulot, en tant que bénévole, je peux vous aider à nous dégoogliser en tant qu'association. Et il y a passé, pas loin d'un an, on va dire 6 mois à temps très important, plus les 6 mois sur les petits services et les petits liens qui restaient, etc. Donc on s'est dit, oh là, on a un problème. Si nous, qui sommes une association qui connaît quand même bien le numérique, qui comprend relativement bien ses enjeux, on n'est pas fichu de sortir de Google en moins de 6 mois, comment vont faire les autres? Et on a donc décidé à ce moment-là de lancer cette campagne qui s'appellera en octobre 2014 « Dégooglisons Internet » et qui visait trois objectifs. Le premier, c'était de sensibiliser le public à la domination et aux différentes dominations de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et donc, on aurait pu appeler ça dégafamiser, mais le terme GAFA ou GAFAM n'était pas très connu à l'époque. Donc, il s'agissait quand même d'avoir un terme que les gens comprennent. On a choisi pour cette sensibilisation d'utiliser l'imagerie d'Astérix, que tout le monde sur la planète comprend bien, le petit village gaulois entouré par les Romains, en disant, chaque camp romain sera un service de Google ou de Facebook ou autre, un service qui centralise vos données, et on va essayer, nous, d'aller combattre, petits Gaulois, ces camps romains. Donc ça, c'était le premier objectif, c'était la sensibilisation. On a fait, j'avais fait le décompte à un moment donné, sur 3 ans, plus de 300 confs sur le sujet des dominations techniques, économiques et politiques et culturelles de Google et compagnie. Mais ça suffit pas de sensibiliser puisqu'il y avait rien en fait. Si on disait aux gens
qu'il y a un problème, mais t'offres pas la solution à côté.
Voilà, exactement. On disait pas Google c'est le mal. On disait il y a effectivement un problème avec Google. Il y a le problème de la surveillance, mais il y a aussi le problème de la domination technique et de Google qui est capable de dire quels doivent être les formats, quels doivent être les protocoles, etc. Il y a le problème de la domination économique très forte de ces entreprises puisqu'elles sont riches à plusieurs centaines de milliards. Et du coup, on se retrouvait à dire aux gens quelque chose, et nous on pouvait dire, ah mais nous ça y est, nous on est sortis de Google. Mais les gens nous regardaient et nous disaient « Ok, moi je fais quoi ? Je fais quoi avec mon mail ? Je fais quoi avec mon moteur de recherche ? Je fais quoi avec mes Google Docs ?» etc. Et donc, le deuxième objectif qu'on s'était fixé, c'était de démontrer que le logiciel libre était une réponse qui était présente, immédiate, efficace, face à cette problématique. Et donc, on a décidé de mettre en place, on s'était lancé sur l'idée de 30 services, on en est à 34 ou 35 aujourd'hui, je n'ai même plus le décompte, qui est, sont des
départ,
alternatives.
Dès le départ, vous aviez déjà l'objectif d'avoir une trentaine de services, donc pour couvrir l'ensemble quasiment des besoins.
Exactement, c'était ça qu'on visait. Voilà, on s'est dit, en 3 ans, on va sortir 10 services par an, et ces 10 services, voilà, on arrivera en octobre 2017, on aura sorti 30 services alternatifs à ceux de Google.
Et dans votre petit village, vous étiez combien à ce moment-là, en 2013
Toujours pareil, on était en gros 35 bénévoles.
Et
on était en salarié en 2014, on était 3.
D'accord.
Entre 2 et 3. Donc voilà, assez rapidement, on a décidé effectivement déjà d'embaucher un admin 6, hein, parce que c'était moi qui faisais l'administration système des machines, etc., donc la partie plus technique. Et moi, c'est pas du tout mon cursus. Moi, je suis économiste en formation, donc ça n'avait rien à voir. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir un petit peu animer et coordonner cette campagne pendant les 3 années qui ont suivi, et donc de démontrer vraiment que ça fonctionnait. Le troisième et dernier objectif de dégooglisons Internet, et ça vous en avez déjà parlé dans une précédente émission, c'était l'essaimage. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu dans notre volonté l'idée que Framasoft pouvait concurrencer Google, donc ça nous aurait fait doucement sourire, hein. Le budget de Framasoft, j'avais fait le calcul, c'est 1,32 secondes du chiffre d'affaires de Google, donc forcément, ça, absolument incomparable, mais il y avait dans l'idée plutôt d'impulser finalement un réseau qui allait devenir Chaton, dont vous avez parlé il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, je crois, avec ma collègue Angie.
On en a parlé il y a quelques semaines et on va en reparler le 25 juin 2019.
Et donc voilà, donc pendant ces trois années-là, octobre 2014 à octobre 2017, on a sorti des services, j'allais dire à la machette, hein, quasiment un par mois pendant 3 ans. Donc voilà, certains étaient plus lourds que d'autres à mettre en œuvre, etc. Et on a fait énormément de conférences, etc. Et voilà, fin 2017, on était un peu épuisés de tout ça, et à la fois portés, puisque, je ne l'ai pas précisé, mais Framasoft est une association qui ne vit que des dons.
Alors justement, c'était ma question, c'est que le modèle économique des géants du web, on le connaît, hein, malheureusement, peut-être que tous les gens n'ont pas forcément conscience, mais en tout cas, on le connaît, et de mieux en mieux. Par contre, on pourrait dire, effectivement, comment financièrement vous en sortez ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un modèle qui est basé sur le paiement de l'usager service, ou est-ce que c'est un autre modèle ?
Non, on n'a pas de clients. On a uniquement des donateurs et des donatrices, des soutiens qui pensent que ce qu'on fait est bien. Et donc, nous, on propose, on est extrêmement clair sur le modèle économique. On dit, voilà, si ça vous a plu, si vous utilisez le service et qu'il vous convient, pensez à faire un don parce que c'est maintenu par une petite asso. Et puis, voilà, si vous avez les moyens, vous pouvez faire un don. Si vous n'en avez pas les moyens, ne faites pas de don, mais parlez-en autour de vous, etc. Il y a plein de façons de soutenir le logiciel libre autre qu'en faisant des dons. Le gros avantage, c'est que c'était pas du tout un calcul de notre part, mais on s'est retrouvé finalement à toucher énormément de monde. Une petite partie de ces énormément de monde qui nous font des dons, et ça nous permet aujourd'hui de payer les 9 salariés et les frais de fonctionnement de l'association.
Donc le financement aujourd'hui de Framasoft, c'est du 100%.
C'est du 94%.
Quasiment, exclusivement.
Oui, tout à fait. On vend des t-shirts.
Comme tout le monde, on vend des t-shirts, des autocollants. Enfin, les autocollants, généralement, on les donne, des mugs, etc.
Voilà,
et l'essentiel, c'est les dons.
C'est les dons. Et ça, on n'a pas l'intention pour l'instant de bouger de ce modèle de financement qui nous convient assez bien en tant qu'association d'éducation populaire. Voilà, c'est quelque chose qui nous va bien.
Et dans cette période-là, est-ce que tu peux nous citer les 2-3 services peut-être les plus utilisés ou les plus connus ou les plus emblématiques ?
Les plus utilisés, les plus connus sont Framadat, qui est une alternative à Doodle, qui n'est pas un service de Google, hein, qui reste une boîte privée suisse qui appartient à un assez gros groupe et qui vit aussi de la vente et de la collecte de données et de la personnalisation de son produit. Et donc, voilà, on a développé une alternative à Doodle sur la base d'un logiciel libre préexistant qui était développé à l'Université de Strasbourg et qui s'appelait Studs. Et voilà, aujourd'hui, des Framadat, il y en a plusieurs milliers qui sont créés chaque jour. C'est plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, visiteuses chaque jour. Donc voilà, c'est un service qui marche très bien. Et le deuxième service peut-être le plus connu, c'est Framapad, basé sur un logiciel libre qui s'appelle Etherpad.
Un sort de bloc-notes.
Tout à fait, un bloc-notes collaboratif. Le gros avantage de Framapad, c'est qu'il est collaboratif. Ça veut dire que pendant que vous tapez un texte, une autre personne qui vient sur votre bloc-notes et qui, elle, peut compléter ce texte, peut corriger en temps réel, etc. Et donc là, aujourd'hui, on héberge plus de 200 000 pads, me semble-t-il. Et on a d'ailleurs développé, on a participé assez largement au développement de Etherpad, le logiciel originel, et on a développé nos propres plugins qui sont évidemment sous licence libre et disponibles en ligne et que n'importe qui peut télécharger et installer.
Et réutiliser. Alors justement, tu parles de cette partie de réutilisation. Donc ce projet 2013-2017...
2014-2017.
Ouais. En 2017, vous décidez de ne pas poursuivre cette extension, mais plutôt, comme tu l'as commencé à le dire tout à l'heure, d'essaimer. Ouais. Et donc, c'est ces fameux chatons. Donc, est-ce que même si on a déjà consacré une émission, qu'on va en reparler quand même le 25 juin, est-ce que tu peux quand même expliquer rapidement ce qu'est les chatons et ce que signifie chaton ? On va savoir si tu sais ce que ça veut dire.
C'est quand même moi qui ai trouvé l'acronyme, donc je peux le redire. Chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et chaque terme est important. Donc, c'est un collectif, c'est pas une association. Ça regroupe des hébergeurs de services en ligne, type Etherpad, type Framadat, type... Autre, vous pouvez proposer à peu près n'importe quel type de service libre si vous faites partie du collectif Chaton. Transparent parce que on a choisi d'avoir une gouvernance qui est relativement ouverte, que chacun peut voir, etc., et qui reste bien visible. Ouvert, évidemment, tout est basé sur du logiciel libre. Si vous êtes Chaton, vous devez être à 100% logiciel libre. Modulo, quelques petits points, si vous utilisez il y a un pilote CSI sur un disque dur, etc., voilà. Qui n'est pas libre,
périphérique réseau ou disque dur.
Et évidemment, voilà, il y a quelques petites choses qui peuvent être non libres, mais on essaye d'encadrer ça au plus strict. Neutre, parce que on promeut aussi dans Chaton non seulement l'aspect neutralité du net, mais le fait que chaque Chaton peut avoir ses propres modèles économiques qui nous différencient en ça du modèle dont on s'est inspiré, qui est celui de la FFDN.
C'est quoi la FFDN ?
La FFDN, c'est la Fédération FDN, c'est-à-dire une association qui regroupe des fournisseurs d'accès à Internet associatifs et alternatifs. Et j'en étais au N, et donc le S de solidaire, c'est parce que ça nous paraissait une composante très importante. On souhaitait pas juste créer un collectif dans lequel n'importe qui pouvait postuler et avoir des modèles économiques qu'on aurait trouvé non solidaires. Et donc on essaye de promouvoir aussi un autre Internet, non seulement sur les aspects techniques, mais aussi sur les aspects de pratique et d'usage autour de la solidarité.
D'accord. Alors j'invite les personnes qui nous écoutent à écouter le podcast de l'émission donc du 26 avril 2019, qui est une première émission donc sur les chatons avec une explication sur les services rendus, le fonctionnement. Et comme je disais tout à l'heure, donc le 25 juin, nous ferons une seconde émission plus pour les structures qui souhaiteraient mettre en place un chaton. Comment ça se passe? Comment fonctionne le collectif? Comment se choisissent les logiciels? Voilà, les critères un peu plus techniques. Donc le 25 juin. Alors ça, c'est l'essaimage. Et puis, parce que Framasoft, vous ne vous reposez pas quand même sur vos lauriers, vous lancez il y a quelque temps un nouveau projet. Alors, il faut s'entraîner à le dire, ce projet, hein, parce que c'est...
C'est comme des googlisons, il faut apprendre. Hein.
Il faut apprendre à le dire. Donc, Contributopia, qui est lancé donc il y a quelques années. Alors, qu'est-ce que c'est que Contributopia ?
Eh bien, c'est la suite et la poursuite, pour nous, logique, pas forcément logique pour tout le monde, mais pour nous, logique, de ce qu'était des googlisons Internet. On aurait pu faire un des googlisons Internet 2 et repartir pour 3 ans et ressortir X services chaque année. Et c'est pas du tout ce qu'on a souhaité faire. D'abord parce qu'on était fatigués. Faut imaginer donc que pendant 3 ans, on a sorti donc quasiment un service par mois. On a embauché, donc il fallait gérer la croissance aussi de l'association. On est passé donc de 2-3 salariés à 9 aujourd'hui. Et on s'est dit, Il faut. Alors, oui.
Juste une question. Donc, il y a un choix de ne pas poursuivre les embauches.
Volontiers.
Volontairement.
Mais volontiers, je veux bien qu'on arrête d'embaucher à Framasoft. Moi, ça m'arrange en tant que directeur aussi. Mais du coup, on s'est dit, on avait deux voies. C'est soit on se disait ça marche et on devient une espèce de champion du service libre, etc., qui est une étiquette qu'on nous a assez vite collée, Framasoft, le Google du libre, etc. Bon, on l'a un peu pas toujours bien pris d'ailleurs, mais c'était pas du tout notre objectif. Nous, on se considère comme une bande de potes qui font des trucs aussi pour se marrer. Et à un moment donné, on voyait bien que la pression et les exigences du public envers nous devenait très très forte. Et donc on s'est dit on veut pas céder à cette pression et à ces exigences, et on a décidé volontairement de limiter le nombre de salariés à 10. On a décidé de rester une petite association en mode bande de copains, et Contributopia était un virage à la fois en termes de communication, puisqu'on est passé de l'imagerie un peu Astérix assez agressive, le Gaulois réfractaire parfois, face au camp romain qui veut nous dominer, etc. Donc, on va dire une histoire ou un imaginaire de David contre Goliath, mais qui finalement, nous, être des super-héros, ça ne nous intéresse pas du tout. Et donc, on s'est dit, on veut essayer de communiquer autre chose. On a demandé, du coup, on a pas mal réfléchi en interne dans l'association. On a demandé à David Révois, qui est un dessinateur fort connu dans le milieu du logiciel libre, qui publie des bandes dessinées sous licence libre, notamment une BD qui s'appelle Pepper and Carrot, qui est un type adorable, et de nous réaliser un petit peu des visuels qui porteraient une autre image d'un numérique qui serait souhaitable. Et on a développé un petit peu cet imaginaire positif du numérique au travers de cette campagne Contributopia, on n'a pas repris du tout les codes de la Startup Nation, etc. On a complètement cassé les codes avec ça. On a fait quelque chose d'assez mignon, d'assez graphique, un peu en mode manga, BD, parce que on voulait donner une autre image de ce que voulait être Framasoft au monde. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant cette période-là, dans l'association, un certain nombre de prises de conscience que le logiciel libre était certes quelque chose qu'on souhaitait défendre, mais qui était plus un moyen qu'une fin, et que finalement, la fin, nous, ce qu'on souhaitait, c'était vivre dans une société plutôt apaisée. Ce qu'on souhaitait, c'était passer de la société de consommation à la société de contribution, telle que l'a définie en partie Bernard Stiegler, qui est un philosophe. Et du coup, on souhaitait porter une autre façon de parler des enjeux autour du numérique et qui ne soit pas tourné uniquement sur les meilleurs services, la concurrence, la bataille, la lutte, mais plutôt sur le faire ensemble, sur l'entraide, sur le partage des savoirs et des connaissances. Et donc, quand on a proposé Contributopia, il y avait cette idée de changer un petit peu de paradigme et de dire qu'en changeant le numérique, on pouvait changer la société. Et inversement, si on voulait changer la société, il fallait aussi changer le numérique. Et on a décidé d'orienter notre lutte ou notre façon d'agir sur l'idée que la contribution était quelque chose d'absolument central. Si je reprends le cas de Framadat, par exemple, les gens imaginent que c'est toujours Framasoft qui maintient Framadat, sauf que dans les faits, on n'a personne pour réellement maintenir Framadat. Alors, on a de temps en temps un salarié de Framasoft qui peut y passer un petit peu de temps à droite, à gauche, etc. Mais on est juste complètement débordé par l'ensemble de ces activités, vu qu'on a toujours la maison d'édition, on a toujours la Framaki, et on a 34 services, et on en propose de nouveaux assez régulièrement. Et donc, il fallait parler d'autre chose, le faire autrement. Et donc, pour nous, Contributopia, c'est donc un mot valise entre non seulement l'idée de contribution au logiciel libre, de société de contribution, et d'utopie. Et je rappelle que utopie, ça veut pas dire quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui n'est en aucun lieu. Et on a trouvé qu'Internet était une utopie parfaite.
Donc c'est à la fois créer et proposer des outils, transmettre des savoir-faire et encourager à la contribution,
ouais,
finalement pour améliorer le monde.
Exactement, c'est changer le monde un octet à la fois, tranquillement, doucement, et surtout pour nous relâcher un peu de pression et dire non mais en fait l'important c'est pas du tout Framasoft, l'important c'est les gens qui décident de taper ensemble dans la même but pour aller dans la même direction, et ça c'est valable, et c'est aussi ce que porte Contributopia comme discours, c'est de dire que c'est pas telle ou telle association, c'est pas tel ou tel sujet de militance qui doit nécessairement l'emporter, c'est plutôt par une complémentarité et par une mise en réseau de différents groupes qu'on va réussir à avancer, à changer le monde. Donc aujourd'hui, voilà, Framasoft se retrouve dans des projets aux côtés d'assauts comme, je ne sais pas, Tous Migrants ou la CIMADE.
Un exemple de projet, justement. Alors.
Bon, alors, je vais prendre un projet technique, un projet non technique. Allez, le projet technique, Bénéva Libre, ça va te parler. Bénéva Libre, qui est un logiciel qu'on coproduit à de nombreuses structures, à la fois des réseaux d'éducation populaire comme le CRAJEP Bourgogne-Franche-Comté, avec l'April, avec Framasoft, avec la Ligue de l'Enseignement et d'autres. Et l'idée, c'est de faire un logiciel pour gérer et comptabiliser le temps de bénévolat des associations. Donc là, on est sur un projet de développement logiciel. Ça va être réalisé par une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle CLIS21. Et voilà, et ce projet-là, pour nous, est important, est un facteur de changement dans la société. Et voilà, et c'est un projet technique qui, pour nous, est plus intéressant qu'un logiciel qui permet juste de, je sais pas, partager des images, par exemple. Pour nous, ça a plus de sens. Un projet non technique, ça va être, par exemple, on travaille avec d'autres associations sur une coalition qui travaille à identifier et mieux faire connaître finalement les types de répression sur les libertés associatives, c'est-à-dire voilà les répressions qui peuvent être policières, judiciaires. Quand on est une association aujourd'hui en France et même plus largement en Europe, on peut voir son activité associative qui est menacée ou réprimée par d'autres intérêts, qui peuvent être des États, qui peuvent être d'autres structures, qui peuvent être des baisses de subventions, etc. Et donc, on travaille aussi sur ces sujets-là. Donc, on voit bien qu'on s'est éloigné sur ce type de choses, de ces questions purement techniques du numérique. Et pourtant, on garde toujours ce discours assez fort, même si notre ennemi n'est pas, enfin, on ne l'identifie pas comme étant Google. On va beaucoup parler aujourd'hui du capitalisme de surveillance ou de sujets de ce type-là, donc, qui mériterait une émission à part entière.
Alors, ce sont des bien belles explications, comme le dit Marie-Odile sur le salon web, et je relayerai après une petite question qui va te faire sourire et qui va faire sourire ton voisin aussi. Mais juste avant, ça n'empêche pas le développement de nouveaux outils. Est-ce que Peertube rentre dans cette catégorie-là, ou est-ce que Peertube, c'est encore, on va dire, ouais, des googlisons
Non, pour moi, Peertube sort.
Alors, rappelle
de...
ce que déjà,
voilà,
Peertube,
donc,
s'il te plaît.
Peertube est une plateforme libre et fédérée et décentralisée qui permet de diffuser et de mettre en ligne des vidéos. En gros, plutôt quand dans des googlisons internet, on avait pensé à créer une alternative à YouTube, on s'est dit bah oui, mais du coup si les gens ont fait Framatube et que tout le monde vient déposer ses vidéos, ça va nous coûter hyper cher et puis surtout on va recentraliser des vidéos, ça sert strictement à rien, il faut qu'on puisse sortir de ce système-là. Je pourrais raconter l'histoire de Peertube, mais très rapidement en fait, on a rencontré, c'est aussi une question d'opportunité, on a rencontré le développeur d'un logiciel qui s'appelait Peertube, qui faisait ça sur son temps perso et 100% bénéfique. Et on lui a proposé tout simplement de travailler au sein de Framasoft, d'être salarié au sein de Framasoft pour accélérer le développement de Peertube. Et donc la particularité de Peertube, et pour ce pourquoi pour moi Peertube rejoint l'idée de Contributopia, c'est qu'on est sur du logiciel qui est fédéré. Et c'est un concept qui est hyper important pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire la fédération. Le mail, par exemple, est un outil fédéré. Moi, j'ai une adresse @framasoft.org. Toi, Frédéric, tu as une adresse @april.org. Si je t'écris, tu reçois mon mail, tu peux répondre avec ton mail et m'envoyer un mail depuis april.org@framasoft.org. Et l'idée de réseau fédéré, par exemple comme Mastodon, ça fait que si tu as un compte sur Framapiaf, tu peux écrire à quelqu'un qui a un compte sur une autre instance du logiciel Mastodon, qui a un réseau de micro-blogging. microblog, voilà, un peu alternatif à Twitter.
Pour échanger des messages courts.
Et du coup, ce système-là, pour nous paraissait hyper intéressant parce que ça nécessitait de réinventer finalement comment est-ce qu'on allait utiliser Internet, non plus en allant déposer ces données chez Framasoft ou chez Google ou chez Facebook ou à l'April, mais plutôt comment on allait pouvoir se réapproprier notre petit bout d'Internet. Et c'est ça, en ça, pour moi, que Peertube relève plus de Contributopia que de dégooglisons Internet.
D'accord. Alors, pour pas que tu loupes ton train, parce que sinon je m'en voudrais, on va bientôt terminer, je vais quand même relayer la question de Marie-Odile, qui te demande, en fait, est-ce que Pig n'ira toujours pas boire le thé à l'éducation nationale? Alors, rapidement, est-ce que tu pourrais rappeler le contexte et répondre?
Ben, tout simplement, pour ceux qui ont suivi le début de l'émission, Framasoft vient du milieu de l'éducation, éducation nationale, éducation populaire. On a longuement discuté avec des personnes au ministère de l'éducation nationale pendant des années. Je suis allé moi-même un certain nombre de fois, y compris avec toi, au ministère, et il n'en est pas ressorti grand-chose. Et on a donc sorti, je crois que c'était en octobre 2016, un billet qui s'appelait « Pourquoi Framasoft n'ira plus prendre le thé au ministère de l'Éducation nationale ?» Et pour nous, ça exprime assez bien ce que veut faire Framasoft aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est une toute petite association, on a un nombre de points d'énergie, si je prends la métaphore du jeu vidéo, un nombre de points d'énergie qui est relativement limité, donc moi je me dit, voilà, chaque matin, j'ai 100 points d'énergie, où est-ce que je les mets? En tant qu'association, on va dire, on va avoir 10 000 points d'énergie, où est-ce qu'on les met? Et bien, clairement, quand on les met au niveau de l'éducation nationale, le retour, il est de 3. Voilà. Si, un petit peu des fois, un tout petit peu de retour, mais pas grand-chose. Et donc, l'idée, c'était de dire, où est-ce qu'on peut mettre notre énergie pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit vecteur de transformation. Et donc, aujourd'hui, au ministère de l'Éducation nationale, il se passe des choses intéressantes. Par contre, je n'ai toujours pas de vrais signes positifs et concrets qui me diraient si Framasoft, demain, mettait, allez, on va dire, 1000 points d'énergie au niveau de l'Éducation nationale, en termes d'investissement de temps et d'énergie, eh ben, je suis pas sûr qu'on aurait plus que 3 en retour. Donc, tant qu'on n'a pas ce retour-là, tant que, pour moi, il n'y a pas des positions claires, limpides et vraiment avec des projections un petit peu à long terme et des engagements fermes du ministère de l'Éducation nationale, ben, tout simplement, le ministère continuera à travailler sur ses propres projets, ils avanceront à leur rythme et nous, on ira mettre notre énergie auprès notamment des publics, associations, éducation populaire, milieu de l'économie sociale et solidaire.
Très bien. Est-ce que tu as une dernière phrase de conclusion ou un appel?
Oui,
ou une actu?
Tout à fait. Il se trouve que toujours dans la logique de Contributopia, on vient de lancer un appel à la collecte pour un logiciel qui s'appelle Mobilisons. Alors Mobilisons est né d'une problématique assez simple, c'est que les marches pour le climat, qui moi m'intéresse parce que je m'intéresse à ces questions-là, s'organisaient essentiellement sur Facebook. Je n'ai pas de compte Facebook, enfin je n'utilise plus mon compte Facebook depuis des années. Et donc je pouvais participer à la marche pour le climat, mais je ne pouvais pas participer à l'organisation, puisque tous les groupes d'organisation se situaient sur Facebook. Et on s'est rapidement dit, là aussi ça venait de dégooglisons Internet, on voulait une alternative à Meetup. Meetup est une plateforme qui permet de s'organiser des événements à plusieurs, qui est une plateforme complètement fermée hein, d'ailleurs. Et on s'est dit, mais en fait, le problème, c'est pas juste la gestion des événements, c'est plutôt la gestion des mobilisations. Et donc, on a voulu créer Mobilisons, qu'on espère être à la fois non seulement une alternative aux événements Facebook, peut-être assez rapidement au groupe Facebook, mais qui permettent à la fois d'organiser l'anniversaire surprise de ta cousine jusqu'à, pourquoi pas, une action de désobéissance civile par Extinction Rebellion. Et donc, on doit pouvoir couvrir tout ce panel-là d'actions. Et la particularité, c'est donc que Mobilisons, tout comme Peertube, sera lui aussi un logiciel non seulement libre, décentralisé, donc vous allez pouvoir, chacun va pouvoir l'installer, mais aussi fédéré, c'est-à-dire que les différentes installations de Mobilisons vont pouvoir s'interconnecter les unes avec les autres, de façon à ne pas avoir tout dans le même silo. Donc on a lancé une campagne qui vise à atteindre les 50 000 euros, qui est pour l'instant la somme qu'on a estimée nécessaire pour amorcer le projet et donc en sortir une version bêta en gros au deuxième semestre 2019, c'est-à-dire quand même très bientôt, donc en ce moment on code déjà dessus, et une version 1 au premier semestre 2020. Et on a franchi la barre des 35 000 la semaine dernière. On cherche surtout, si vous connaissez des structures anglo-saxonnes ou en tout cas non francophones, elles peuvent très bien être hispanophones ou germanophones, qui peuvent être intéressées par Mobilisons, n'hésitez pas à leur passer l'info, parce qu'en fait on a cette difficulté de montrer ce modèle économique du logiciel libre en disant voilà, finalement c'est un logiciel qui ne rapportera pas d'argent, on a besoin de financement au départ pour amorcer le logiciel. Par contre, si on s'y met tous, plein de gens mettent un euro, on pourra avoir la somme pour payer à un développeur pour le développer à plus long terme.
Eh bien, écoute, merci Pierre-Yves. Évidemment, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur framasoft.org. Un, pour trouver toutes les informations et pour participer à Mobilisons. On va te libérer pour que tu attrapes ton train. Donc, je te remercie. Donc, c'était Pierre-Yves Gosset, directeur de Framasoft. Belle journée, puis bon retour sur Lyon.
Merci. Bonne fin d'émission.
Merci.